Alors, moi j'avais suivi un petit peu le mot de Léo sur travail et nouvelles formes de nomination et sans trop savoir d'ailleurs le temps, qui intervenait, etc. Donc c'est un petit peu pas très stable mon exposé et ma présentation. Simplement, ce sont des réflexions et des. Bon, et vous m'excusez un petit peu le manque de cohérence par ailleurs. Hein. Cela dit, peut-être commencer par le début. Commencer par Boltanski, peut-être éventuellement revenir sur Castel, parce que à partir de Boltanski et la question de la domination, hein, je vais peut-être commencer par une critique, mais qui n'est pas forcément adressée à Boltanski, mais qui peut-être se trouve dans le nouvel esprit du capitalisme ou dans la cité par projet, tous ces affaires-là. C'est une question sur un petit peu qui part d'une hypothèse, comme on l'avait un petit peu toujours, supposé ou dite, présupposé plutôt, c'est que si on admet au départ que nous sommes bien dans une sorte de division cognitive du travail, c'est-à-dire que finalement, dans le travail même, les individus sont des médiations directes, les uns vis-à-vis des autres, ils négocient, ils échangent, ils ont des échanges sociaux non marchands, ils organisent leur vie à la frontière du public et du privé, ils ont des rapports avec le social et l'environnemental, enfin ils ont toute une série de dimensionnements qui sont déjà de cette nature, dans un rapport direct des uns avec les autres, c'est-à-dire direct, j'entends bien le mot direct, c'est-à-dire que direct, ça veut dire que, à mes yeux en tout cas, le travail il s'élabore, il se conçoit, il s'exécute dans un jeu immédiat d'interaction hein, des individus. Hein. C'est-à-dire qu'on a ce processus constructif réel d'une temporalité, disait Penny, qui est la temporalité subjective dans le travail lui-même, qui peut-être même est déterminante dans le travail lui-même. Hein. C'est structurant, quelque part. Hein. Et donc, dans ce cadre-là, si on accepte, et je sais bien qu'il y ait encore des organisations tayloriennes, qu'il y a encore des fractionnements de l'espace productif où on organise un ensemble de dispositifs plus archaïques ou industriels, tout n'est pas serviciel, tout n'est pas cognitif dans l'économie de la connaissance, mais si on admet un petit peu cette tendance, hein, cette forme hégémonique des rapports sociaux, dans le travail, quelle est la place de la domination directe? Y a-t-il une place pour la domination? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que, comme c'est là, il n'y a pas de place pour la domination directe, au sens où un individu qui serait détenteur d'une autorité ou un pouvoir quelconque, simplement, imposerait sa façon de voir ou de faire à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de place pour une domination conçue comme un rapport entre deux volontés. Et il me semble que si, c'est-à-dire dans des rapports de travail où la subjectivité, les affects se construisent, jouent un rôle déterminant. Hein. Et par rapport aussi à la subjectivité des individus eux-mêmes, hein, qui ont leur histoire, leurs habitus, leur trajectoire de vie. Hein. Donc quelque part, il faut. Alors je précise, parce je peux soulever là, hérisser le public, je le comprendrai, c'est que c'est une forme de domination qui est, à mon avis, je dirais obsolète, c'est une domination venue d'en haut, c'est une domination d'une autorité ou d'un pouvoir hiérarchique. Ça n'a pas sa place dans un environnement productif réticulaire, je pense. C'est ça qui me paraît important. Non pas que ce soit pas un phénomène impossible, je dirais même ça l'est pour une certaine frange. Je dirais, si je parle autrement, du patronat industriel. Hein. Mais en tout cas, cette forme de domination ne sert pas au mieux les intérêts, si je peux être cynique, hein, elle peut être même inadéquate et contre-productive pour servir les intérêts des dominants, enfin, ou une classe, en tout cas, d'entrepreneurs ou des capitalistes. Parce que c'est simple. Hein. Si la subjectivité des uns est conditionnée par celle des autres, si on contraint la volonté de l'un, on affaiblit la volonté de tous. Hein. Et si on bloque les langages, si on bloque les échanges sociaux, les solidarités locales qui soutiennent l'application, les forces créatives dans le travail, eh bien on perd la valorisation. Hein. Donc quelque part, je serais un petit peu là dans un jeu de miroir. Je me fais un petit peu c'est presque un conseil que je donne au MEDEF, ne procédez pas de cette façon-là, ne cherchez pas à nous rabattre ou à nous tenir dans un monde qui n'est plus le nôtre, enfin on ne croit plus être le nôtre, quelque part. Cela dit, la question se pose de savoir si on vit mieux sous un capitalisme industriel, ou si on est mieux ou en quête en tout cas de liberté dans un capitalisme du cognitif, ou je ne sais pas. Hein. Donc une première proposition, ça a été ma première réaction, ce serait de dire qu'il n'y a pas de place pour une domination directe portée par un pouvoir unilatéral, hiérarchique, vertical, ce que vous voulez, dans des schémas productifs un peu réticulaires, ou en tout cas conçus comme sur un mode coopératif plutôt. Donc je me suis dit, et c'est là que vient mes doutes, il faut poser la question de la domination autrement. Il faut poser la question, parce que il faut poser autrement à partir du moment où je crois où la disposition de soi est le vecteur quelque part, ou la pierre angulaire du travail cognitif, donc de la productivité sociale et peut-être de la valorisation. Hein. Et donc, comment organiser un dispositif de mineur. Alors je pose cette question comme ça, mais ce n'est pas tout à fait la façon dont je l'envisage. Quel type de dispositif qui n'apparaît pas immédiatement à l'œil nu, hein, recréer un rapport salarial sous le capitalisme financier, recréer un antagonisme pour reconsidérer les formes de lutte, et les dresser une checklist un petit peu des revendications et autres sur un autre terrain que celui que l'on connaît ou qu'on a connu, ça demande de réfléchir aussi sur ces dispositifs, sur les pierres angulaires, un petit peu, sur la façon dont on peut penser quelque part la liberté. Les libertés réelles, au pluriel, je préfère beaucoup plus le pluriel qu'un mot générique comme de la liberté. Quels sont les types de libertés, les libertés réelles, qui nous gagneraient à disons, dont on devrait être, que l'on devrait porter, dont on devrait être détenteur, je dirais, en termes de droits réels, à Amartya Sen, quelque part. Hein. Donc, qui nous permettrait de fonctionner, qui nous permettrait d'être, je dirais, dans un rapport au travail ouvert, différencié, singulier, etc. Donc, je n'ai pas réponse claire à cette question, mais je crois qu'il y avait quelque chose dans les propos de Boltanski qui m'a éclairé, en tout cas qui mériterait d'être creusé, c'est la distinction qu'il avait faite entre domination et exploitation. Parce que je crois que... pour Boltanski, j'ai pas forcément bien saisi les termes. J'ai l'impression que dominer, c'est qualifier les êtres, c'est les nommer, les classer, c'est gouverner les esprits aussi, un peu, ça prend la formule de Guizot. Hein. Et exploiter, c'est s'enrichir des différences, exploiter des espaces-temps différents. Hein. Et il me semble que la distinction mérite d'être creusée, cette distinction, parce que elle me semble centrale aujourd'hui. Il y a déjà à savoir s'il y a une économie de la domination ou une économie de l'exploitation à reconsidérer, parce que sur une évidence qui est celle de la requalification de la force de travail aujourd'hui sur le nouveau terrain productif, il me semble que la question de la domination se pose. Hein, qu'est-ce qu'aujourd'hui la notion de force de travail, face aux nouveaux contenus, aux nouveaux réquisites, aux nouvelles modalités sociales d'organisation et de gestion du travail, hein. Qu'est-ce qu'une force de travail? On sait très bien qu'une force de travail clé en main, comme on l'a pu les produire, ou le système éducatif, ou toutes les socialisations économiques et autres ont pu produire, n'est plus un donné pour nous, enfin nous analystes, nous qui regardons ça. Hein. Il me semble qu'il y a toute une sorte de à partir du moment où les contingences, l'événement, la communication, les rapports du travail à l'événement par exemple, ou à la nouveauté, ou à l'innovation, est toujours un trait permanent des modes de produire, la force de travail n'est jamais clé en main, la force de travail n'est jamais déterminée socialement. Elle doit être ouverte, elle doit être un construit ouvert. C'est pour ça que je reviens à cette question de la disposition de soi, parce que c'est dans la subjectivité, je dirais presque politique, que doit être, disons, construite cette ouverture. Hein, c'est simple, il faut rapprocher ça à la question du travail cognitif et peut-être la multiplicité de compétences, de palettes de traits de personnalité, de ça qui demande à être mobilisé dans le travail pour comprendre assez rapidement que si on domine les agencements, les logiques institutionnelles, les médiations qui font sens du point de vue de la combinatoire de ces différentes facettes que l'on doit mobiliser, on a gagné sur le terrain de la domination. Hein. Donc il me semble quelque part que se pose cette question hein, de la domination indépendamment, hein, moi je dirais la gouvernance des esprits et des représentations. Peut-être que ça a trait à voir avec le capitalisme cognitif, mais il faudrait l'étudier plus approfondie, de façon plus approfondie. Hein. Et donc, c'est quelque part derrière, c'est la question de la domination, c'est la question de comment se définit et comment se construit les agencements adéquats hein, aux réquisites du travail. Hein. Et je dirais aussi, qui les construit ? Comment on les construit et sur quelle base institutionnelle on les construit. C'est là qu'à mon sens, et là je retrouve notre ami Luc Boltanski à nouveau, la domination est inséparable de la question des institutions. Hein. Qu'est-ce que les institutions aujourd'hui, quel travail font les institutions aujourd'hui dans la construction des rapports de domination? Est-ce que c'est un travail unilatéral? Est-ce qu'il y a vraiment comme ça une sorte de vision unidirectionnelle des rapports de pouvoir qui organise la différence hein, ou au contraire, y a-t-il dans ces institutions une logique un peu plus souple et plus ouverte? Je serais plutôt sur ce terrain dont on avait parlé, c'est-à-dire la logique de réversibilité, c'est-à-dire la capacité, par exemple, d'une institution à organiser des allers-retours entre des normes, je dirais, des standards de travail et la capacité à se reconfigurer ailleurs dans des singularités, etc. On a ce type de dispositif. À la limite, je dirais presque la fuite et sécurité, les licenciements à l'amiable pourraient être quelque part cette façon d'organiser la fluidité sociale dans des rapports de travail complètement articulés sur des valeurs cognitives. Et on comprend bien que les dispositifs aujourd'hui du rapport salarial, les dispositifs institutionnels, soient complètement retravaillés quelque part politiquement dans ce sens. Hein. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu une sorte d'intérêt pour cette distinction entre domination et exploitation, parce que l'exploitation, à mon avis, est moins stratégique du point de vue des enjeux politiques, des enjeux d'institutions, que pour l'ordre marchand, pour l'ordre capitaliste et marchand, que l'exploitation. Alors que l'exploitation, je dirais presque, pour nous, c'est du petit lait, parce que on peut toujours imaginer se recréer des singularités politiques, des organisations non prévues, non planifiées, non instituées, il y a toujours de l'informel, des capacités d'ouverture qui sont jamais déterminées à l'avance. Donc de ce point de vue-là, je dirais, je préfère m'occuper de la domination que de l'exploitation. Cela dit, je m'en vais maintenant, je ne sais pas combien de temps il me reste, qui intervient derrière. J'aurai une deuxième série de remarques, c'est plutôt sur Castel qui me fait... C'est quelque part, j'ai plus de mal parce que ça me paraît un peu plus, c'est pas le bon Castel qu'on a eu la première séance. Il y a eu du meilleur Castel, notamment dans propriété de soi, propriété sociale, des choses comme ça, où il a avancé quelques idées et c'est peut-être à celui-là que je parlerai plutôt que au Castel de la séance un peu contrit et faisant toujours des mea culpa. Et donc, je dirais simplement, pourquoi Castel m'intéresse dans propriété sociale et production, je ne sais plus quoi le titre exactement, c'est qu'il pose la question du travail, et ça fait sens par rapport à ce qu'on voit un petit peu, ou le mot d'Arifian qui soulignait le fait qu'on assiste aujourd'hui à un retour du travail aux travailleurs. Hein. Et ce retour du travail aux travailleurs, c'est-à-dire la capacité d'un individu à commander un petit peu, pas tous les paramètres du travail, mais ne serait-ce que sa temporalité, son déroulement, ses éléments un petit peu comme ça, matériels ou autres. Ce retour du travail au travailleur, c'est un peu le retour du travailleur à l'état de nature. C'est le fameux travail chez Locke, où finalement, travail et force de travail ne font plus qu'un. Hein? Et dans cette question du rapport du travail, ce rapport fusionnel entre travail et force de travail, avec cette question du travail cognitif, parce que c'est ça qui fait qu'il y ait, ça rejoint un peu mon propos, la force de travail est défaite dans cette affaire-là. Elle n'est plus formatée, elle n'est plus construite, elle n'est plus représentée, elle est assimilée à la personne des individus, à les singularités. Et le phénomène, je crois, le plus profond, le plus extrême de la chose, c'est un peu la personne firme. Hein. C'est l'individu entrepreneur de lui-même qui, articulé au marché, donne cette figure d'une singularité marchandisée, etc., etc. Donc on a cette fameuse figure hein, qui est derrière, et à côté de cette réalité-là, qui est un petit peu là, on a Castel qui arrive avec la propriété de soi, des institutions qui devraient garantir la propriété de soi, donc la propriété d'une singularité marchande, hein, c'est-à-dire des formes un petit peu, je dirais poussées, ou très ambivalentes plutôt, hein, où, les agencements institutionnels, même protecteurs ou, étatiques, ne diraient rien sur les formes de circulation marchande, les segmentations, un peu violentes des individus, des subjectivités adossées aux ces individus, qui feraient aussi que on est dans des systèmes, où les ressources, qu'elles soient propres à soi, ou les ressources disponibles pour, l'apprentissage, pour la compréhension des choses, pour l'activité plus généralement, où ces ressources sont segmentées, sont marchandisées, elles ont un prix, elles sont réglées, elles sont organisées politiquement, etc. Donc, on a est-ce que ça vaut le coup d'institutionnaliser un espace, le plus souvent c'est un espace public, à côté de ces ordres-là, hein, de développement d'une singularité marchandisée, là-dessus, je suis sceptique, parce que notre ami Robert Castel dit bien qu'il faut, organiser un réformisme radical, mais la question du réformisme radical en mettant côte à côte un espace public de protection et de l'autre un espace violent de recomposition, en considérant d'ailleurs que ces deux espaces ne sont pas intimement liés, c'est, à mon avis, assez problématique. En tout cas, ça mériterait d'être regardé à deux fois. Alors, le deuxième élément qui me paraît important, c'est... il faut bien voir là où on veut aller. Je crois qu'il faut déjà lutter contre ces types d'institutions qui soutiennent la singularité marchande, qui soutiennent et qui cassent les identités collectives qui se construisent dans les rapports de travail. S'il faut penser une médiation institutionnelle, il faut la penser du côté de la réversibilité. Hein, il faut organiser, il faut des garanties démocratiques, bien sûr, sur la façon dont ces réversibilités s'opèrent. Hein, mais je crois qu'on a... s'il faut un réformisme radical, moi, j'applaudis des deux mains ce type de démarche. C'est-à-dire que cette réversibilité soit socialisée, qu'elle soit inscrite aussi, dans la chair même des individus. C'est-à-dire que les individus à la Amartya Sen soient porteurs de droits réels, qu'on leur donne des capacités, qu'on leur donne des moyens de sustainable, de l'enforcement, de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'on leur donne, plus des soutiens que des encadrements pour organiser cette fameuse circulation sociale des individus ou des ressources. Parce qu'il me semble bien que c'est à ce niveau-là que devrait être pensée la domination. Donc, quelques remarques comme ça qui me sont venues à la lecture. J'aurais d'autres choses, peut-être d'autres à dire, mais...